Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Bonjour Stéphane. Joyeux Noël à vous et à toute l'équipe, ainsi qu'à toutes nos auditrices et auditeurs. J'espère que le Père Noël a su se montrer généreux en ces temps difficiles et que vous avez su être généreux en retour en lui laissant sur la table, avant d'aller vous coucher, une petite assiette remplie de biscuits ainsi qu'un bon petit verre de whisky pour lui donner du courage pour finir sa tournée. Bon, pour le whisky, j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs écoles et que d'autres préféraient lui laisser un verre de lait. Mais je tiens à préciser que mon père m'a toujours dit très bien connaître le Père Noël et que celui-ci lui aurait assuré préférer de très loin le whisky. Vous l'aurez compris, chez nous les rennes ronflaient très fort la nuit du 24 décembre. C'est durant l'Antiquité grecque que l'on a commencé à offrir des cadeaux aux enfants pour les fêtes de fin d'année. Puis les Romains ont poursuivi cette tradition en donnant de l'argent pour fêter l'année nouvelle, les étrennes. Il faut ensuite attendre le 4e siècle pour voir une christianisation de cette fin d'année, désormais consacrée à célébrer la nativité et où les sources ne mentionnent pas de dons de cadeaux. Le sacré prime. Il faut attendre le 16e siècle, dans les pays de culture germanique, pour trouver de nouvelles traces de cadeaux faits à des enfants à la fin d'année, et d'une manière de plus en plus profane. Par exemple, on trouve dans des carnets personnels de Martin Luther datant de 1535 des mentions de dépenses de jouets pour enfants pour la Saint-Nicolas. Vous en conviendrez, c'est étonnant pour l'initiateur du protestantisme. De même, la ville protestante de Strasbourg décide en 1570 de maintenir son marché du 6 décembre malgré la fin de la célébration de la Saint-Nicolas, qui deviendra plus tard le fameux Christkindlesmarkt, le marché de Noël. Cela montre bien une profanisation de cette fête, devenant petit à petit plus profane que religieuse. Il s'agit cependant là d'un phénomène circonscrit à la petite bourgeoisie qui naît à cette époque, mais qui va prendre de l'ampleur au fur et à mesure que cette classe sociale va se développer. C'est au XIXe siècle que les dons de jouets aux enfants se substituent progressivement aux étrennes, et où de nouvelles images de donateurs liées à la culture populaire apparaissent, comme la Béfana ou les Rois Mages. Et c'est aussi en cette fin de siècle que l'on voit apparaître dans les différents pays d'Europe cette figure d'un petit homme venu du Nord, vêtu de rouge, joyeux et très humain. Il porte avec lui des valeurs positives, familières et universelles, qui invitent à la fête toutes les couches sociales. Sa réussite s'explique car il s'appuie sur l'évolution de la place de l'enfant dans la famille et dans la société, et sur la croissance de l'industrie du jouet, confortée par la révolution commerciale des grands magasins, avec leurs rayons spécialisés de jouets dès 1880. Leurs affiches et leurs catalogues sont diffusés à des centaines de milliers d'exemplaires, leurs vitrines sont mises en scène pour Noël, bref, la pub commence à prendre une place dans notre espace visuel. Tout cela pénètre la culture enfantine, contribuant à faire l'éducation des jeunes consommateurs. Il y a là une démocratisation du modèle bourgeois de consommation, proposé comme un nouvel art de vivre. Le côté religieux existe toujours bien évidemment, mais il sert désormais à mettre en scène un décor qui lui appartient de moins en moins. Et aujourd'hui, à qui appartient Noël? À mon avis, on peut s'accorder sur le fait que Noël est à tout le monde. Les croyants iront assister à la messe de Noël tout en offrant des cadeaux à leur famille, et les plus gros bouffeurs de curés s'amuseront à décorer un palmier de Noël à leur goût. Mais il y a un objet qui fait beaucoup parler de lui en ce moment et qui, lui, divise. La crèche. Pratique apparue au Moyen-Âge et qui s'est massifiée au XIXe siècle, d'abord publique puis domestique, elle consiste aujourd'hui essentiellement à placer des petits personnages représentant la scène de la naissance de Jésus. Encore une fois, chacun fait comme il veut, de la plus sobre et classique à la plus librement interprétée. Par exemple chez moi, décidément, toute la ville de Nazareth était venue assister à l'heureux événement. Le boulanger, la poule, le marchand, les voisins, bref, pas besoin d'invitation, tous les centons étaient conviés à la fête. Pourtant, alors qu'à mon sens il s'agit là d'un non-sujet, certains s'en saisissent. Ainsi, certaines collectivités ont décidé de placer au sein même de leurs bâtiments publics des crèches pour Noël, et de le revendiquer. Visiblement, pour ces élus, avoir une crèche chez eux ne leur suffisait pas. Il fallait absolument l'imposer aux autres. Leurs revendications sont connues. Au motif de vouloir réaffirmer l'histoire chrétienne de Noël et de la France, ce que personne ne nie, ceux-ci essayent de profiter d'un moment festif, partagé par tous, pour faire avancer leur agenda politique conservateur. Mais conserver quoi? Noël se porte bien, et je ne connais personne qui soit pour sa fin en général ou la prohibition des crèches chez les particuliers. On observe là un exemple de ce que l'on nomme la réaction. Nostalgique d'un passé fantasmé, la crèche n'est ici qu'un prétexte pour imposer leur vision de ce que doit être Noël et plus largement de la société. Imposer une norme qui ne peut que leur ressembler. Paradoxalement, cette volonté d'exclusion s'éloigne de l'esprit de Noël, où l'une des traditions est pourtant de laisser une assiette vide sur la table le soir du réveillon, dans l'éventualité où une personne seule demanderait à pouvoir passer ce moment-là avec les autres. Et cet autre, c'est le monde entier. Un amour universel contre une haine particulière. Une tradition d'inclusion et non d'exclusion. Bref, pour mes auditeurs et auditrices assidus, c'est une tradition un peu bretonne finalement. Allez, sur ce, je vous laisse et à l'année prochaine.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.